Sud Radio, il est 2h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Aquili.
0-826-300-300, la vérité en face, où va la guerre entre Israël et l'Iran, ce conflit qui nous inquiète tous dans nos vies quotidiennes, qui fait irruption sur tous les écrans. Il y a déjà la guerre en Ukraine toujours en cours. Cette nouvelle guerre va-t-elle embraser tout le Proche-Orient? Et au-delà, nous vivons avec une espèce d'ambiance guerrière au quotidien. Est-ce qu'Israël peut empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, parce que c'est quand même le but de guerre qui est recherché? Bruno Tertrais, le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur de la question israélienne aux éditions de l'Observatoire, sera notre invité tout à l'heure. Les sujets qui nous concernent ce matin: Nicolas Sarkozy privé de la Légion d'honneur après sa condamnation à un an de prison ferme pour corruption dans l'affaire des écoutes. Eh bien, ça fait beaucoup parler, hein, cette histoire. L'arrêté a été publié hier au Journal officiel, c'était dimanche. Ça fait réagir, hein, pas seulement dans la famille politique de l'ancien président. Ce qui ne passe pas, c'est la comparaison qui est répétée en boucle avec, vous savez, le maréchal Pétain, qui est le précédent historique. Vous nous dites ce que vous en pensez, la vérité en face, hein, 0-826-300-300. J'ai envie d'entendre votre avis, hein, sur cette Légion d'honneur retirée à Nicolas Sarkozy. L'autre sujet qui est dans l'air du temps après la semaine éprouvante que nous avons passée suite, souvenez-vous, c'était mardi dernier, du meurtre de Mélanie, cette surveillante tuée à coups de couteau par un adolescent de 14 ans dans un collège de Nogent en Haute-Marne. Catherine Vautrin qui veut interdire les écrans aux enfants de moins de 3 ans, que cela s'applique partout, dans les crèches comme à la maison, elle le dit dans le Journal du Dimanche. Est-ce que c'est réaliste? Nous en parlerons tout à l'heure avec Maxime Troulot et vous nous donnerez votre avis également là-dessus. 0-826-300-300.
Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Aquili.
Alors, Nicolas Sarkozy, privé de sa Légion d'honneur après sa condamnation dans l'affaire Paul Bismuth, on en parle avec vous, notamment Muriel, bonjour. Ah, on a du mal à vous joindre, Muriel. Alors, je vous rappelle un petit peu le contexte, hein, cette information qui paraît au fond classique, parce que le président de la République, l'ancien président Nicolas Sarkozy, s'est vu retirer cette Légion d'honneur. C'est une règle, hein, dans l'institution, c'est-à-dire qu'en fait, quand les récipiendaires, c'est comme ça qu'on dit, sont condamnés, notamment à une peine de prison d'au moins un an ferme, c'est une situation qui est celle de Nicolas Sarkozy, eh bien, il se voit retirer mécaniquement cette Légion d'honneur. Nous sommes avec vous, Muriel. On va faire peut-être... Bon, écoutez, vous savez ce qu'on va faire, parce qu'on n'arrive pas à joindre Muriel qui veut nous appeler, qui veut réagir, hein, au 0-826-300-300 en direct de Béziers. Moi, je vous propose qu'on traite ça dès que nous vous aurons en ligne, parce qu'on a un petit problème de liaison. Et on va d'abord... je me tourne vers vous, Maxime Troulot. Oui. Nous allons d'abord évoquer Catherine Vautrin qui veut interdire la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités, des Familles, les écrans aux enfants de moins de 3 ans.
C'est exactement ça.
Les préserver des écrans, est-ce que c'est une proposition réaliste?
Je ne sais pas. En tout cas, elle veut le faire partout, y compris à la maison, même si, je cite, les autorités ne sont pas chez nous pour vérifier les gens. Voilà ce qu'a dit Catherine Vautrin ce week-end, hier même plus précisément dans le Journal du Dimanche. La ministre veut interdire, mais sans sanctionner, hein, Catherine Vautrin, qui s'inspire ainsi de 2019 et de la loi contre les violences éducatives ordinaires. Souvenez-vous, on en avait beaucoup parlé, où la fessée est interdite, mais pas sanctionnée, hein, d'après cette loi qui remonte à 6 ans désormais. Le fait de la proclamer, cette loi, avait-elle expliqué, a fini par ancrer l'idée qu'on ne tape pas un enfant, même d'une petite fessée. Eh bien, en fait, la ministre veut faire un peu la même chose pour les écrans de chez les moins de 3 ans. Finalement, on dit qu'on ne peut pas, ça va peut-être très bien poussé les parents à empêcher certains de leurs enfants, ou peut-être tous leurs enfants de moins de 3 ans, de prendre des écrans, souvent les tablettes, c'est assez facile d'accès. La ministre a dit vouloir publier dans toutes les prochaines semaines un arrêté interdisant les écrans dans les lieux d'accueil des enfants de moins de 3 ans. Voilà pour cette dernière proposition de la ministre Vautrin.
Allez, Romina, vous êtes en direct de Vic-en-Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. Bonjour, Romina.
Oui, bonjour.
Voilà, bonjour. Quel temps il fait chez vous ce matin, au fait ?
Écoutez, on a du soleil. Ah. On est plutôt bien dans le sud-ouest.
Oui, il faut en profiter un peu. L'actualité est un peu stressante, hein, Romina. Dites-moi, cette annonce de Catherine Vautrin dans le journal du dimanche, détaillée par l'instant par Maxime Troulot, vous en pensez quoi, vous ?
Eh bien, moi, je crois qu'il va falloir en amont qu'elle le réfléchisse bien et puis que ce soit aussi en corrélation avec la santé. Parce que c'est le côté interdiction moi, qui me dérange. Effectivement, l'idée est plutôt bonne. Il faut responsabiliser les parents. Maintenant, interdire. Comment, par quel biais, on va pouvoir vérifier que les parents ne mettent pas les écrans aux enfants de moins de 3 ans ? Alors, ça va être qui le médecin, qui ne voit que très rarement. Ça va être la maîtresse d'école. Il n'est pas encore scolarisé, cet enfant. Ça va être le voisin qui va venir dénoncer. Et alors quoi ? On va prendre des amendes ? Comment ça va se passer ? Donc, non, je crois qu'il faut surtout sensibiliser.
Sensibiliser, hein. Ouais, Romina, vous savez qu'on peut faire appel à l'intelligence des Français quand même, hein, ça marche ça. C'est ce qui a été le cas pour la fessée, ça a été suggéré.
Il faut éveiller surtout les consciences et puis il faut amener les éléments. Parce qu'en fait, pourquoi les parents mettent les enfants sur les écrans ? Parce que c'est la facilité, ça les occupe, on paye pas une nounou. On n'a plus mamie ou papy à côté parce que le travail fait qu'on est séparés, les familles sont éclatées. Et donc, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on propose aux gens.
Je me permets une question, Romina, un peu personnelle. Vous avez des enfants ?
Oui, j'ai une fille, oui.
Ouais. Mmh. Quel âge ?
Elle a 8 ans.
8 ans. Et vous avez évité les écrans ou pas, vous ?
Alors, moi, j'avais quand même la télévision. Je vous avoue que les Peppa Pig, les dessins animés le matin, ça a été vers l'âge de 2 ans. Hein.
C'est un peu la béquille, quand même. Mais en même temps, parfois, on est un peu obligé, quand même. Hein.
Bien sûr qu'on est obligé. Et puis, faut aussi, parce que vous savez, on veut ce monde de la perfection. Et il faut faire attention aussi à ça, de cette culpabilité. Après, on demandera aux parents de ne pas se mêler de ce qui se passe à l'école, de ne pas incriminer les enseignants pour telle ou telle raison. Et en fait, on culpabilise tellement les parents qu'on les oblige presque à avoir ce comportement-là. Il faut juste qu'ils sachent que ce qu'ils font, ils font ce qu'ils peuvent, les renforcer, être à côté d'eux, les accompagner et renforcer surtout la possibilité d'une rencontre avec des professionnels de santé de proximité qui est un accompagnement un peu plus en faveur de ce sens, quoi. Moi, je crois qu'on est trop à distance des professionnels de santé.
Alors, Abdelhak, vous merci Romina de Vic-en-Bigorre. Abdelhak, vous êtes à Mont-de-Marsan, hein ?
Oui, absolument.
Bonjour à vous et merci d'intervenir sur l'antenne de Sud Radio. Abdelhak, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette proposition de la ministre ? Apparemment, ça va se faire. Hein. Vous avez vu, elle va lancer des campagnes de communication. C'est de l'information, en réalité. C'est de l'incitation, vous ne pensez pas, Abdelhak ?
Oui, absolument. D'abord, je voudrais remercier l'auditrice qui est passée juste avant, que je ne connais pas, mais j'ai trouvé que c'était complet et très juste.
Pertinent, hein.
Vraiment, tout ce qu'elle a dit. Ah, très très bon choix.
Difficile de passer après Romina, hein, Abdelhak.
Absolument, non, c'était vraiment parfait. Et je le souligne parce que c'est pas toujours le cas, mais elle, en tout cas, c'était très très bon et complet. Moi, ce que je voudrais rajouter, ça m'agace là quand on parle d'interdiction, parce que. Est-ce qu'on n'emploie pas le bon mot ? Si c'est de prévention dont elle parle, Madame Vautrin, il y a aucun souci. Si ça parle d'interdiction, bien sûr que ça me dérange parce que on a l'impression, c'est pas une impression, on nous prend un peu pour des neuneux, les citoyens français, les parents. Je veux dire, ça suffit. On sait très bien que ça fera jamais du bien à nos enfants que de planter leurs yeux sur les écrans. Il y a des maladies, les maladies avec les yeux bleus. Enfin, on connaît tous les problèmes que ça peut causer. Ça, on le sait. Mais ça commence à m'agacer. On est dans l'ère du temps, vous savez, où on veut interdire du voile, on veut interdire ci, on veut interdire ça. On parle de choses anticonstitutionnelles, on parle de choses impossibles à mettre en place. Alors oui, quand on parle de prévention, c'est ce qu'on n'a pas fait depuis 30 ans, que ce soit dans les cités, que ce soit dans les écoles, que ce soit... Voilà, c'est le mot qu'on a oublié, prévention. Alors... Parce que, vous savez, vider après des piscines à la petite cuillère quand le merdier a été déposé, vous savez, c'est facile de vouloir parler d'interdiction, des choses impossibles... Voilà, donc la prévention pour vraiment que les...
Vous avez marre, Abdelhak, qu'on interdise d'interdire Parfois, c'est impossible, c'est ce que vous nous dites.
C'est usant, hein. Parce qu'on n'est pas des neuneux, on est informé, on est à l'ère d'Internet, on est très très bien informé, on a envie du meilleur. Quel parent, même le moins bien éduqué, a envie de faire de mal à ses enfants?
Ça fait
donc,
plaisir.
Donc, pour ça, la prévention, en faisant des spots publicitaires, il n'y a aucun souci et tout ça, c'est très très bien. Mais le reste, faut arrêter un petit peu, on n'est pas des neuneux, quoi.
Ça fait plaisir de vous entendre, Abdellah, que vous revendiquez une certaine forme de bon sens. Mais juste pour une précision, ce que dit la ministre dans l'interview, hein, je suis allé chercher ça un peu dans le détail, elle dit mener des campagnes de communication, un peu comme ça a été fait pour la fessée, c'est donner des repères aux parents. Elle est consciente, la ministre Catherine Vautrin, qu'on ne va pas envoyer des gendarmes dans les chambres à coucher des familles chez elles. C'est une façon d'insuffler l'idée que ça ne se fait pas. C'est-à-dire que ça finira par rentrer dans les consciences. Ça, c'est pas inutile.
Conclusion avec vous. Je trouve que c'est très très bien. Si c'est ça, alors on parle de l'interdiction. Elle parle d'éducation et de prévention.
Dans les crèches, ce sera obligatoire, pas d'écran. Et chez les personnes privées, essayez d'y penser. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Hein. Merci Abdellah, merci en tous les cas, merci.
Ça n'a rien à voir avec l'interdiction en tout cas, avec grand plaisir.
Merci pour votre avis en direct de Mont-de-Marsan dans un instant. Nous allons parler de la sanction qui touche l'ancien président Nicolas Sarkozy. La vérité en face, 0826-300-300, à tout de suite.
Sud Radio Axe-les-Thermes.
103.
Sud Radio.
Te chercher sans cesse dans le ciel, trouver l'amour. Moi je veux tes vagues qui inondent mon âme, trouver. Submerge mon âme partout, c'est fou. Je te sens près de moi partout, dans
en face, Jean-François Aquili.
Allez, Nicolas Sarkozy, privé de Légion d'honneur, ça vous fait parler, ça, hein, depuis hier. C'est vrai que l'ancien président de la République est quand même très populaire, il n'a jamais laissé personne indifférent. Bonjour à vous, Muriel.
Eh bien, bonjour Jean-François, et bonjour à tous vos auditeurs.
Eh oui, on a réussi à vous joindre, formidable.
Écoutez, je ne comprends pas parce que j'ai aucun problème avec mon téléphone, mais c'est pas grave.
Écoutez, en tout cas, vous êtes là en direct pour la vérité en face.
Quelqu'un qui a enlevé le truc à Sarkozy et qui voulait m'enlever mon téléphone, voilà.
Tiens, j'ai peut-être une idée de ce que vous allez nous dire. Allez, vous trouvez ça comment? C'est injuste pour vous? C'est normal? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez?
Non, je trouve ça lamentable. Je pense qu'ils, bon, ils voulaient de toute façon sa peau, ils l'ont eu. Et encore, quoi que c'est pas fini, puisque il a fait des recours. Mais c'est pas tant ça. C'est le fait que les gens la mémoire courte. Quand il y a eu, on a eu un gros pépin en Europe et qu'il a réussi à sauver les banques et l'argent des Français. Ça, alors là. Tout le monde s'en contrefou. Mais peu importe, vous savez, ce n'est qu'une étiquette sur une veste qui est donnée à n'importe qui. Alors franchement, non. Mais moi, je trouve ça lamentable, mais bon.
Vous faites référence à...
J'espère qu'ils la retireront à beaucoup de gens.
Vous faites référence à 2008, la crise mondiale des subprimes, crise économique qui a touché l'ensemble de la planète. Hein.
Et le seul qui a réussi à... Et à qui... Ça a coûté des intérêts aux banques, pour une fois. Hein. Ce n'est pas les Français qui ont payé.
Ouais, ça
faut
change
bien
un peu,
se
ouais.
le rappeler, ça.
là-dessus, Muriel, il y a ce comparatif. Enfin, ce n'est pas un comparatif. Il y a ce rappel qui est fait. Vous savez, en boucle, on dit « Ah, le précédent dans l'histoire de France, c'est le maréchal Pétain ». C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mise en parallèle. Ça
non,
vous choque ou pas, ça ?
Non, mais aussi, on peut remonter au roi qui décapitait n'importe qui. Non, mais c'est n'importe quoi. Franchement, on est dans un monde mais lamentable, lamentable. Les références, comme l'autre, là, en ce moment, qui s'en va au Groenland, voilà, au lieu de s'occuper des Français, c'est une honte.
Alors, à sa décharge, vous parlez d'Emmanuel Macron, il fait un stop, hein, c'est une halte, il est sur le chemin du G7, et il est allé porter son soutien à un pays membre de l'Union européenne, c'est le Danemark. Enfin, le Danemark, en tous les cas, qui est le propriétaire du Groenland. Donc, c'est pas non plus... C'est dans ses attributions. Je me permets de vous dire ça là-dessus, Muriel. Mais bon, ça vous choque, ça, vous ?
En France, qui ferait mieux de temps en temps de s'occuper des Français. Ou alors, laisser carrément les coudées franches à son Premier ministre et au ministre de l'Intérieur. Voilà.
Bon, vous n'êtes pas contente hein, là-dessus ce matin, Muriel.
Non, pas du tout.
Je vous entends. Bon, restez en ligne, Muriel. Nous sommes avec Sandra. Bonjour, Sandra.
Bonjour, Jean-François.
Vous êtes en Vendée. Hein ?
Oui.
C'est bien, la Vendée. Super,
oui, c'est bien la Vendée.
Bah oui.
Faut pas trop le dire, faut pas qu'il y ait trop de personnes qui viennent.
On oublie, on n'a rien dit. Sandra, vous pensez que c'est un symbole? Ça n'a pas beaucoup d'importance à vos yeux?
Non, parce qu'en fait, je rejoins un peu Muriel sur que ça changera rien à la vie de Monsieur Sarkozy. Mais surtout, c'est une façon de jeter en pâture à la population, à la colère de la population, qui est très en colère en général après le monde politique. Donc allez, on en prend, on le met, on le jette, comme a été Fillon à une époque. Mais en fait, c'est symbolique, ça va rien changer. Aujourd'hui, il y a des choses bien plus graves à traiter, qu'on n'évoque pas. La dette, par exemple, la sécurité, le manque de médecins, l'éducation qui part en cacahuète.
Tous ces sujets, Sandra, de la vie quotidienne. Hein.
Ouais. Mais c'est ça, et qu'en fait, je vais vous dire, en Vendée, nous, de savoir que Nicolas Sarkozy, on lui retire ça, en ruralité, on s'en fiche. Franchement, on s'en fiche. Ça va pas nous changer notre quotidien, en fait. C'est ça. C'est qu'est-ce que ça va changer au quotidien des Français. Alors, les symboles, je veux dire, le drapeau de la France qui est malmené, la Marseillaise qui est sifflée par les supporters de foot, les députés qui hurlent dans l'Assemblée nationale et qui s'invectivent et qui parlent très mal, qui fument la drogue. Enfin, je veux dire, si on en veut des symboles, on en a des... Et plus grave, à mon avis.
Bon, merci à vous. Merci à toutes les deux, Muriel et Sandra, pour cet avis, cette humeur ce matin, suite à ce qui arrive à Nicolas Sarkozy, ce retrait de la Légion d'honneur. Je profite, j'accueille dans ce studio Bruno Tertrais, qui est notre invité. On va parler de la guerre entre Israël et l'Iran. Bonjour Bruno Tertrais, soyez bienvenu, vous avez la parole dans un instant. Je me tourne vers Maxime Trouleau. Nous avons les sujets du bac philo, série générale, c'est ça?
Exactement, tiens, deux questions ce matin.
Il est 9h20, ça y est.
Oui, on a déjà, c'est 9h15, souvent là, c'est un petit peu de retard. Peut-être que Bruno Tertrais va pouvoir pencher sur les deux questions du bac philo. Notre avenir dépend-il de la technique? Première question. Et deuxième question, la vérité est-elle toujours
convaincante.
Ah, Bruno Tertrais, là-dessus,
vous avez trois heures.
Vous choisissez quel sujet?
Moi, écoutez, juste sur le premier, j'ai envie de vous dire que si nous sommes dans un monde dans lequel on peut écouter Sud Radio partout dans le monde, si on est dans un monde dans lequel, enfin, la technologie a quand même permis d'améliorer la condition humaine depuis deux siècles de manière absolument spectaculaire. Alors, c'est pas une croyance, c'est pas une religion, mais c'est un constat, le progrès technique, malgré ses effets parfois indésirables, et globalement quelque chose de formidable. Voilà, ouais, c'est tout ce que j'ai à dire pour mon bac philo du jour.
C'est très bien, c'est pas mal, vous aurez une bonne note. Vous savez, il y a un précédent en fait dans la littérature, je crois que ça doit dater de 1941, c'est le ravage de Barjavel.
Oui, absolument.
Où toute la technologie est en panne, et c'est le chaos.
Oui, c'est un très beau livre d'ailleurs que j'ai lu quand j'étais adolescent, et je dois dire que c'est une crainte récurrente, mais après tout, c'est quand même assez difficile d'imaginer que tout tombe en panne d'un coup. Il y a quelque chose quand même auquel on pense pas. C'est pas pour ajouter une catastrophe possible à l'ambiance actuelle, mais c'est le risque, par exemple, d'une grande tempête solaire. Alors, j'étais pas venu pour parler de tempête solaire, mais bon, je pense qu'il est difficile d'imaginer que l'Internet, par exemple, qu'on tombe totalement en panne. Mais on est vulnérable dans nos sociétés modernes, c'est vrai, parce que la technologie crée aussi des vulnérabilités à des catastrophes auxquelles on pense pas toujours, mais qui sont scientifiquement crédibles, comme une gigantesque tempête solaire. Ça nous poserait à tous de gros problèmes, pas seulement à vous Sud Radio, pendant au moins quelques jours, si ce n'est quelques semaines.
Vous imaginez la panique dans la vie quotidienne. Je vous mets un 18 sur 20, Bruno.
Merci beaucoup.
Pas mal. Alors, je rappelle, le bac de philo, ce sont 533 000 candidats, bac général et bac technologique, qui planchent jusqu'à quelle heure, Maxime Troulot, à peu près?
Je crois que c'est 4 heures, il me semble.
D'accord, jusqu'à midi.
Jusqu'à midi, je crois. Oui.
Allez, nous verrons bien ce qui va en ressortir. La vérité en face, 0826-300-300 avec notre invité. Nous allons parler de cette guerre entre Israël et l'Iran dans un court instant. À tout de suite.
Sud Radio Tarascon.
95.2.
Sud Radio.
And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn, hardcore, softcore. Dream of Californication. Dream of Californication. A teenage bride with a baby inside, getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. In Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And Alderaan's not far away, it's Californication.
An earthquake's out to a girl's guitar. They're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from California. Hey, our surgeon Mary, while he breaks the spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving.
La vérité en face, Jean-François Aquili.
Avec notre invité Bruno Tertrais, bonjour Bruno Tertrais. Je rappelle, vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, accessoirement auteur de la question israélienne parue, c'était au début de l'année, hein, février, aux éditions de l'Observatoire, livre furieusement d'actualité, Bruno Tertrais. Nous évoquions hors micro hein, à l'instant cette guerre entre Israël et l'Iran. Ce n'est pas qu'un sujet géopolitique, loin de nous. Elle fait irruption, selon vous, dans nos esprits, ici, là, en France, dans la vie quotidienne de chez nous tous, quelque part.
Oui, mais toutes les guerres aujourd'hui font irruption dans votre salle à manger, dans votre cuisine, dans votre chambre, où que ce soit, parce que vous voyez immédiatement des images, vous entendez des bombardements, vous voyez des photos de victimes civiles. Donc ça contribue, et c'est vrai, à une sorte d'inquiétude généralisée, voire d'angoisse, que je peux tout à fait comprendre. Alors, en l'espèce, sur ce qui se passe entre l'Iran et Israël, moi j'entends beaucoup deux inquiétudes. La première, c'est, on parle de la bombe atomique, puisque évidemment, il est question du programme nucléaire iranien. Et une autre inquiétude, c'est, mais est-ce que la Russie va pas faire quelque chose, elle qui est alliée de l'Iran? Bon, moi je suis pas là pour faire du catastrophisme, Je suis là pour essayer d'analyser les choses aussi froidement et rationnellement que possible. Alors premièrement, il n'y a pas de risque nucléaire, hein, puisque l'idée, c'est justement l'idée israélienne, c'est d'empêcher l'Iran d'avoir la bombe. Il n'y a pas non plus de risque de catastrophe radiologique de type Tchernobyl, comme je l'ai lu parfois ces jours-ci. Les bombardements ne peuvent pas mécaniquement, physiquement faire.
Ça a été dit par certains responsables politiques.
Les responsables politiques en question ont parlé, à mon sens, un peu trop légèrement. Il y a toujours des petits risques. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, je vous la fais courte et simple.
Le risque fissile.
Il n'y a pas de risque d'explosion nucléaire, ni non plus de risque de type Tchernobyl. Puis il y a une autre inquiétude, c'est que va faire la Russie, puisqu'on sait que la Russie est amie, non pas alliée de l'Iran. Et là aussi, je crois qu'il faut être rassurant. En fait, la Russie est très embêtée par cette affaire, parce que l'Iran est un grand fournisseur de drones, notamment à la Russie, qui sont très utiles pour ses opérations en Ukraine. Et donc, c'est une gêne pour la Russie. La Russie n'est pas une alliée formelle de l'Iran. Elle n'a ni l'envie, ni l'obligation de porter secours à l'Iran. Donc là aussi, il faut couper court à certaines inquiétudes potentielles. Non, c'est pas le début de la Troisième Guerre mondiale.
Non, c'est ça. C'est ce qui préoccupe chacun d'entre nous. Et j'entends, moi, les auditeurs de Sud Radio interviennent de façon très pertinente là-dessus et manifestent cette forme d'inquiétude. Nous bâtissons, nos existences au quotidien. Nous avons tous des plans d'épargne, des difficultés. Certains sont au chômage, etc., etc. Et soudain, vous avez des conflits majeurs qui font irruption parce qu'il y a une démultiplication de notre retraite. Des écrans à tous azimuts, l'information en continu, nous sommes connectés, c'est le village global plus hein, aujourd'hui, et c'est ce qui fait qu'il y a une forme de peut-être de déformation du réel.
Oui, tout à fait. En tout cas, on a des lunettes qui ont changé un petit peu de focale. C'est-à-dire que, en fait, des conflits qui étaient très lointains et qui ne vous touchaient ni plus ni moins que c'est le cas aujourd'hui, on vous donne l'impression qu'ils vous concernent plus directement. Alors, attention, la Russie, l'Ukraine, c'est quand même, ça nous concerne parce que c'est déjà l'Europe.
C'est dans l'Europe.
Israël, tout ce qui concerne Israël, il y a une sensibilité particulière dans une partie des populations européennes, pour une raison ou pour une autre, qui fait qu'on se sent à tort ou à raison, plus concernés. Il peut y avoir des échos, bien sûr, de ces conflits, y compris littéralement dans la rue. Mais je le répète, c'est pas parce qu'on voit les images tous les jours de bombardements que la guerre se rapproche de nous.
Alors Emmanuel Macron, en escale au Groenland, a fait des déclarations sur le conflit entre Israël et l'Iran. Le président de la République qui a souhaité que la négociation reprenne, mais qui a évoqué aussi le fait que la France n'a pas été sollicitée, que Poutine n'est pas forcément le bon interlocuteur. Écoutez les mots du président de la République.
Personne ne souhaite voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire, mais tout le monde souhaite que la discussion et la négociation reprennent. Et là aussi, les États-Unis d'Amérique ont une vraie capacité à faire revenir tout le monde autour de la table. Je ne crois pas que la Russie, qui aujourd'hui est engagée dans un conflit de haute intensité et a décidé de ne pas respecter la Charte des Nations Unies, puisse être en quoi que ce soit un médiateur.
Bruno Tertrais, c'est une position raisonnable, mais au fond, qu'est-ce qu'elle impacte ?
Alors, oui, c'est une position raisonnable. Déjà sur un point, non, la Russie peut être absolument pas être un médiateur dans cette affaire-là.
Un faiseur de guerre, médiateur en face,
oui,
c'est
voilà,
compliqué.
C'est assez peu crédible. La France s'inquiète et est concernée par cette affaire iranienne depuis très longtemps. D'abord parce que nous avons été victimes nous-mêmes, on l'a un peu oublié, du terrorisme d'inspiration iranienne dans les années 1980. Ensuite, surtout parce que la France a été un des négociateurs de cet accord sur le nucléaire de 2015, qui a été ensuite mis à la poubelle par Donald Trump en 2010. Mais la France suit ce dossier de très près, elle le connaît extrêmement bien. Il y a même eu un conseil de défense consacré à l'Iran il y a 3 semaines environ. Donc Emmanuel Macron s'intéresse de très près à cette affaire. À mon sens, il a raison, parce que si jamais l'Iran devait se doter de la bombe atomique, ça, là pour le coup, il y aurait une réverbération partout sur la planète. Et sur Israël, juste un point, parce que je crois qu'on fait parfois des mauvais procès au président de la République, on lui dit mais alors il est incohérent, puisqu'un jour il est d'un côté, un jour il est de l'autre. Là je crois il s'agit pas de le défendre ou de l'attaquer, mais je crois qu'il est assez clair sur deux choses. D'abord, il considère qu'aujourd'hui il faut reconnaître la Palestine à la suite d'un processus de reconnaissance mutuelle, mais en même temps, mais c'est dû en même temps, j'allais dire positif, il dit attention, si Israël est attaqué, nous contribuerons à sa défense, comme la France l'a fait d'ailleurs l'an dernier, quand il y a eu au printemps 2024 plusieurs attaques iraniennes contre Israël. Et c'est pas des positions contradictoires.
La France avait prêté main forte à l'époque.
Elle a prêté main forte parce qu'elle est présente en Jordanie notamment, qu'elle peut contribuer à la défense aérienne, parce qu'il suffit de regarder la carte. Les missiles et les drones qui vont d'Iran en Israël, ils passent au-dessus de la Jordanie et l'Irak.
Mais nous ne sommes plus sollicités par Israël, parce qu'il y a une forme de désamour quand même depuis quelques mois.
De défiance,
peut-être.
Oui, il y a une méfiance réciproque, notamment parce que il y a cette affaire de reconnaissance potentielle l'État palestinien. Mais il n'empêche, vous savez, derrière ce que vous appelez les désamours, c'est-à-dire les discours publics de part et d'autre, il y a aussi des coopérations mutuelles qui continuent à exister. Et ce que Macron a dit il y a quelques jours, c'est que si Israël a de nouveau besoin de nous pour défendre sa population, eh bien, si nous sommes sollicités, nous répondrons présent comme on l'a fait il y a un an. Et à ce stade, ça n'a donc pas été fait.
Alors Bruno Tertrais, vous allez éclairer les auditeurs de Sud Radio ce matin. Donald Trump, que vous évoquiez à l'instant, lors de son récent discours à Riyad, dit qu'il souhaitait conclure un accord avec l'Iran sur le nucléaire. Il veut être une sorte de faiseur de paix. Il a même déclaré, j'ai noté, je n'ai jamais cru qu'il fallait avoir des ennemis permanents. Et soudain, sa stratégie, elle est mise à terre par Benjamin Netanyahou.
Alors oui et non, ce qui est vrai...
Quelle est la réalité de la présence américaine dans cette histoire de guerre-là ?
Alors, premièrement, toujours se souvenir que Donald Trump a un objectif, c'est d'avoir le prix Nobel de la paix. C'est pour ça qu'il lance des initiatives de cesser le feu sur Gaza, de cesser le feu sur l'Ukraine et de règlement du problème nucléaire iranien. C'est d'ailleurs toujours le même qui s'y colle, si j'ose dire. C'est Steve Witkoff, un de ses amis, un agent immobilier, un promoteur immobilier
de New York,
de New York à succès. Et pour l'instant, on peut pas dire que les résultats soient très probants. Alors, est-ce que Donald Trump a trompé l'Iran? Parce que tout ça était une mascarade destinée à masquer la préparation d'une attaque israélienne ? Non. Est-ce que Donald Trump a encouragé Netanyahou à le faire ? Non. Mais Donald Trump, en même temps, a considéré qu'à un moment, si Israël estimait que c'était le moment de le faire, eh bien, il n'allait pas faire obstacle à cette série de bombardements. En même temps, il continue à espérer, effectivement, que les négociations reprennent. Bon, alors, à mon avis, il rêve. Mais il y avait, normalement, encore une session de négociations prévue dimanche à Oman. Oui. Donc, ce qu'il espère, Donald Trump, fidèle à sa manière traditionnelle de procéder, vous savez, sa négociation, c'est je te mets à terre et ensuite, on discute. C'est la même stratégie de négociation qu'il a depuis 40 ans dans l'immobilier, c'était pareil. J'entends un coup de poing sur la figure et après on discute. Mais là, je crois que l'idée d'une reprise des négociations n'est pas très réaliste.
Non, l'objectif de cette campagne militaire, c'est d'aller détruire l'arsenal nucléaire, la capacité des Iraniens à fabriquer la bombe. C'est faisable ou pas? Parce que c'est toute la question quand même.
Oui, alors ce qui est très qui est tout à fait envisageable, c'est de réduire la capacité iranienne à effectivement fabriquer la bombe. Les installations nucléaires principales, pas toutes, ont été bombardées. Les missiles, les sites de missiles, de fabrication et de stationnement de missiles sont également bombardés. Vous savez, en politique, souvent, l'idée, c'est de gagner du temps. Et le temps, c'est précieux. Donc, si les Israéliens estimaient que l'Iran aurait pu avoir la bombe d'ici, en gros, un an, puisque ce délai change selon les moyens iranien et les décisions que l'Iran prend, eh bien l'idée c'est de dire on va ramener ce délai à 10 ans. Voilà, quelque chose comme ça. Et c'est déjà pas mal. On peut pas détruire complètement un programme nucléaire, d'autant plus que certaines des installations clés sont très profondément enterrées et que les Israéliens ne pourraient pas les endommager sans l'appui des Américains. Hein, ce qui pourrait,
c'est-à-dire avoir un certain type de bombe qui perce.
Oui,
des...
en fait, là, il y a notamment une installation que les Iraniens, pour éviter d'être bombardés justement, ont enterré très profondément sous la montagne, qui s'appelle Fordo, et c'est une installation d'enrichissement de l'uranium que les Israéliens ne peuvent pas bombarder, ne peuvent pas endommager sans l'aide des États-Unis. Et il y a aussi, vous savez, les assassinats de responsables scientifiques et des ingénieurs nucléaires iraniens, ça compte aussi parce que quand vous voulez fabriquer une bombe, c'est pas facile, ils vous font...
Ça, c'est fait. Pardonnez-moi de cette remarque triviale, hein, mais les assassinats, il y avait un programme secret, hein, comment ça se passe?
Les 9 personnes qui ont été assassinées au cours des 5 derniers jours étaient effectivement des responsables importants que vous ne pouvez pas remplacer facilement. J'allais dire, les militaires, les responsabilités, vous pouvez les remplacer assez facilement. Vous prenez le suivant dans la pyramide.
Qui sera forcément compétent et fera le job.
Oui.
Ou il le fait déjà à la place de celui qui incarne l'autorité militaire.
Exactement. Alors qu'un ingénieur ou un scientifique nucléaire spécialisé dans tel ou tel domaine de la fabrication d'une arme, c'est beaucoup plus difficile. Donc tout ça pour vous dire que les Israéliens sont en train, dans tous les cas de figure, de porter un coup extrêmement dur au programme nucléaire iranien. Ils ne l'ont certainement pas éliminé, mais... l'affrontement ne fait que commencer.
Bruno Tertrais, est-ce que nous sommes partis, alors c'est un peu boule de cristal hein, comme question, mais sur une guerre longue distance qui va durer des semaines, des mois, on le voit avec Gaza, dans un autre registre, c'est ce qui se passe depuis des années en Ukraine, donc une sorte, comme chez Orwell, d'état de guerre permanent entre des blocs, et puis nous vivons avec cette perspective, avec des morts dans tous les sens, des débats n'en plus finir. Alors, chez nous en France, hein, qui polluent notre vie,
oui,
est-ce que c'est parti pour durer?
Alors, premièrement, oui, l'affrontement est parti pour durer. D'ailleurs, Netanyahou l'avait annoncé lui-même. Il avait parlé de séquence d'ouverture, donc ça va certainement durer encore des jours, peut-être des semaines. Après, ça sera une question, j'allais dire, de capacité et de résilience des deux côtés, du côté iranien et du côté israélien. On voit, par exemple, que les Iraniens commencent à avoir du mal à lancer des centaines de missiles comme ils l'avaient fait l'an dernier. Une des choses à suivre, par exemple, pour les gens qui analysent ces conflits, c'est de voir combien les Iraniens sont capables de lancer de missiles. Évidemment, les Israéliens, c'est ce qui les intéresse, c'est combien on en arrête. Mais je vous entends, Jean-François Quilibe, parler de guerre permanente et de guerre entre blocs. Attention, on n'a pas deux blocs militaires comme on avait au temps de la guerre froide. C'est plus compliqué que ça. Moi, je dis souvent dans un autre livre, je raconte que c'est plutôt un affrontement entre deux familles de pays du côté, j'allais dire, de l'axe des autocrates, comme on disent parfois les Américains. Il y a la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, et puis le Venezuela comme membre associé pour faire bonne mesure. Et puis, on a une sorte de famille occidentale, mais qui est très...
Plus ancienne, en quelque sorte.
Plus ancienne, oui. Mais j'allais dire qu'on n'est pas dans des blocs militaires comme ou dans des blocs d'alliance, comme en 1914. C'est une des raisons pour lesquelles je ne crois pas qu'on soit à la veille d'une guerre mondiale, ou comme en 1939. C'est plutôt des familles de pays qui sont en compétition et qui, parfois, effectivement, se font la guerre. Mais nous n'avons pas de raison, nous, Français, d'être impliqués dans une guerre aujourd'hui. Je rappelle par ailleurs que les guerres les plus meurtrières, on n'en parle jamais. La guerre du Tigré, par exemple, je suis pas sûr que tous les auditeurs aient déjà entendu parler de la guerre du Tigré en Éthiopie. Ça a été le conflit le plus meurtrier pendant 3 ans de suite, des centaines de milliers de morts, et ça, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on ne les voit pas.
Allez, la vérité en face, 0-826-300-300. Vous restez avec nous, avec notre invité Bruno Tertrais. Nous évoquons cette guerre qui a démarré entre Israël et l'Iran, avec des buts précis, mais des perspectives floues quant à son déroulement. 9h42 sur Sud Radio. Nous vous retrouvons à tout de suite. Pour la...
Sud Radio ailleurs, en DAB+.
Sud Radio.
Vérité en face, Jean-François Aquili.
Où va la guerre entre Israël et l'Iran qui occupe
bizarrement hein, notre vie quotidienne, alors que ça se passe, Bruno Tertrais, je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique qui occupe nos vies quotidiennes dans notre forme de façon inconsciente mais permanente, hein, cette inquiétude qui naît de la guerre parce qu'elle fait débat, ne serait-ce que parce qu'il y a déjà un bilan provisoire des victimes depuis vendredi, 16 morts, 450 blessés côté israélien, et je termine par le côté iranien, 200 morts selon les sources, hein, un millier de blessés. Il y a déjà des morts civiles.
Oui, mais
c'est la guerre. C'est la guerre, Bruno Tertrais.
Les morts civiles, il y en a dans toutes les guerres, malheureusement. Et j'allais dire que là, c'est plutôt un bilan. Pardon, je vais parler en tant qu'analyste, mais c'est plutôt un bilan relativement peu élevé au regard des enjeux. Hein. Donc, c'est bien sûr, c'est
et toujours... des conflits dont nous ne parlons jamais.
Et des conflits dont nous ne parlons jamais. Est-ce que vos auditeurs savent, par exemple, enfin, il y a très peu de gens qui le savent, que les guerres les plus meurtrières sont souvent celles dont on ne parle jamais. En 2021 et 2022, le conflit le plus meurtrier dans le monde, je vous le donne dans le mille, c'était le conflit du Tigré. Alors le Tigré, c'est une province de l'Éthiopie, c'est une guerre dite civile absolument épouvantable, c'était plus de 200 000 morts, et ça, personne n'en parle. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'image.
Pas d'image, et peut-être pas forcément de gros enjeux géostratégiques.
Exactement. Alors ça, vous avez raison, c'est quand même important. Si on parle de l'Iran et d'Israël, de ce conflit entre l'Iran et Israël, c'est aussi parce que les enjeux dépassent très largement la région. On connaît la République islamique d'Iran. Je vais quand même rappeler que c'est un pays, encore une fois, je rappelle, c'est un pays qui nous a attaqué, nous, Français, intérêts français, directement ou indirectement, au Liban, ou même à Paris, dans les années 1980. Il faut quand même s'en souvenir. Donc,
après que nous avons raccompagné l'ayatollah Khomeini,
hébergé dans un avion d'Air France. Khomeini, à l'époque, on n'avait pas la même vision de ce qu'il était, de ce qu'il pouvait devenir. Donc c'est vrai que c'est les implications géopolitiques et géostratégiques de ce conflit, c'est vrai, elles sont bien supérieures à celles d'une grande guerre civile africaine. Donc c'est pas totalement injustifié qu'on en parle davantage que de la guerre du Tigré, par exemple.
Une dernière considération géostratégique, les Iraniens, s'ils s'aventure à fermer ce fameux détroit d'Ormuz. Tout le monde a la carte en tête quand même. Hein. Là, ouais. Ça devient sérieux.
Alors, la fameuse fermeture du détroit d'Ormuz, ça fait 50 ans qu'on en parle puisqu'il y a eu d'autres chocs pétroliers.
Mais ça n'arrive jamais.
Effectivement. Alors, d'abord, c'est pas forcément dans l'intérêt des Iraniens parce que eux doivent aussi exporter leur pétrole. Donc, ça serait se tirer plusieurs balles dans le pied. Deuxièmement, il y a quand même d'autres manières. Aujourd'hui, pour certains pays comme l'Arabie Saoudite, d'exporter leur pétrole pour les États du Golfe, de la péninsule arabique. Et troisièmement, je crois que c'est un des scénarios les plus joués par les forces navales américaines depuis 50 ans, à savoir que ça mettrait quelques jours. Donc il y aurait une interruption provisoire de l'exportation de pétrole et d'autres matières par le détroit d'Ormuz, mais il serait rouvert. Mais je le répète, ça serait surtout se tirer une gigantesque balle dans le pied pour les Iraniens.
Bruno Tertrais, vous observez le débat qui a démarré chez nous en France avec ceux qui soutiennent, bon gré mal gré, Monsieur Netanyahu nous a mis devant le fait accompli, mais il y a des raisons objectives derrière.
Je crois qu'on
et peut... Et puis ceux qui se réfugient derrière le droit international, mais qui de fait... valide un régime totalitaire.
Alors le droit international c'est compliqué, c'est plus compliqué que parfois ça en a l'air. Juste pour un point très simple, il y a des gens qui disent mais Israël vient d'attaquer un pays souverain sur son territoire alors que c'est une guerre d'agression parce que l'Iran n'avait pas attaqué Israël.
Cet argument-là est en train de monter chez nous en France.
Mais il faudrait quand même comprendre, et c'est pas une manière de justifier ce que fait Israël, mais il faudrait quand même comprendre que depuis 1979 la République islamique d'Iran attaque Israël jour après jour, directement ou plutôt indirectement, à travers ces instruments qui ont été le Hezbollah, le Hamas, etc. Ça fait quand même plus de 4 décennies, 5 décennies que l'Iran attaque Israël. Donc on peut dire que d'une certaine manière, ça participe de la légitime défense. Alors évidemment, sur le programme nucléaire, c'est un peu différent, mais c'est vrai aussi que quand vous avez un pays qui ne reconnaît pas votre existence, qui prédit votre disparition, parce que c'est ce que font les Iraniens à court ou moyen terme, et qu'il est en train de se doter d'un programme nucléaire, je sais pas, écoutez, franchement, si nous, Français, la Russie ne reconnaissait pas l'existence de la France et était en train de se doter d'un arsenal nucléaire, je pense qu'on aurait peut-être tendance à réagir de la même manière. Ce qui est un peu troublant, c'est que les gens qui soutiennent l'Iran, c'est les mêmes qui soutiennent le régime de Vladimir Poutine, par exemple. Mmh. C'est un petit peu troublant. Et enfin, de l'autre côté, si j'ose dire, il ne s'agit pas de soutenir ou pas soutenir un pays. On peut à la fois être scandalisé par l'ampleur des bombardements de Gaza aujourd'hui et soutenir le droit d'Israël à se défendre. C'est pas contradictoire. On n'est pas forcé d'être dans un camp ou dans un autre. On n'est pas forcé d'être un ami ou un ennemi de tel ou tel
c'est
pays.
C'est pas forcément binaire, hein.
Il existe
une vérité entre ces deux avis.
Que, encore une fois, je critique souvent, la diplomatie du président de la République, mais je pense qu'il a raison de dire à la fois, je veux, œuvrer pour la création d'un véritable État palestinien et avec une reconnaissance mutuelle des pays arabes et d'Israël, et dire Israël a droit de se défendre. Voilà, il faut pas être binaire systématiquement sur ces questions qui sont d'une très grande complexité.
Vous qui observez ce conflit depuis très longtemps, Bruno Tertrais, vous avez l'impression que la France, la Grande-Bretagne, qui était quand même l'ancienne puissance coloniale en Palestine, vous n'avez pas l'impression que nos pays européens, bon, il y a celui qui est membre de l'Union et pas l'autre, désormais, mais sont totalement impuissants, finalement.
Écoutez,
ils jouent un quelconque rôle dans une zone où nous étions quand même très présents.
Oui, mais le fait d'être une ancienne puissance coloniale ou ancienne puissance mandataire, ça ne donne aucun droit. Ça donne éventuellement des responsabilités. Pour la France, on voit quand même pas. Par exemple, quand il y a eu le cessez-le-feu au sud Liban, la France a joué un rôle significatif à aider à ce cessez-le-feu l'année dernière. Donc on a quand même encore des possibilités. Deuxièmement, je rappelle que la France et l'Arabie Saoudite avaient prévu une grande conférence internationale à New York ce week-end pour essayer justement d'avancer dans la stabilisation du Proche-Orient. Cette conférence, elle est non pas annulée, mais reportée. Troisièmement, on peut œuvrer aussi, nous Français, nous Britanniques, à travers le Conseil de sécurité de l'ONU. Le problème, c'est que la Chine et la Russie bloquent à peu près tout au Conseil de sécurité de l'ONU. Quant aux États-Unis de Donald Trump, ils prennent systématiquement le parti d'Israël. Donc, si vous voulez, là, c'est pas notre impuissance, c'est celle des institutions internationales. Et ça, c'est de la responsabilité des grandes puissances.
Alors, je précise que la volonté du président de la République est de reporter rapidement l'initiative que vous évoquez à l'instant. C'est ce que affirmait hier l'Élysée, contacté au téléphone, qui précise que les dirigeants des pays de la zone, sans lesquels rien n'est possible en termes de reconnaissance réciproque, ne peuvent être logistiquement et politiquement présents, car contraints de rester dans leur pays respectif.
On peut les comprendre, c'est le moment.
C'est l'espace aérien.
Mais c'est pas seulement l'espace aérien. Les Saoudiens, ils sont en face, ils sont extrêmement inquiets, concernés, et en même temps pas totalement triste de voir la République islamique d'Iran, qui est un adversaire, voir son potentiel affaibli, voire réduit. Il était impensable pour la co-marraine de cet événement, l'Arabie Saoudite, de s'impliquer là que plusieurs jours dans un grand événement diplomatique. C'est tout à fait compréhensible.
Bruno Tertrais, vous êtes très actif, ceci n'est pas un reproche, sur X, sur l'ex-Twitter, pas seulement sur ces sujets de géostratégie qui sont votre spécialité, vous êtes très observateur de notre vie quotidienne, des débats qui agitent notre communauté nationale. Vous avez la sensation que cette guerre préoccupe vraiment les gens dans la vie quotidienne? On parle beaucoup de pouvoir d'achat, il y a aujourd'hui le bac de philo, il y a le baccalauréat qui est en cours, il y a des sujets sur la retraite, il y a ce conclave qui s'achève demain, on ne sait pas où on va, est-ce que ça sera toujours par répartition, est-ce que la retraite va être capitalisée, il y a des tas de sujets, le budget, vous évoquiez tout à l'heure la dette, c'est en juillet, mi-juillet, il y a des tas de choses qui nous arrivent, qui nous dégringolent dessus. Est-ce que ça c'est un sujet additionnel, on va dire, d'inquiétude mais de façon diffuse, ou les Français, à votre sens, sont intéressé par ce qui se passe réellement là-bas, de façon, on va dire, très précise?
Moi, je vois deux choses. D'abord, un intérêt très important depuis 3 ans environ pour les questions géopolitiques. Et c'est vrai que c'est
un intérêt qui va croissant.
Oui, c'est un intérêt qui va croissant, notamment pour les entreprises. Ça, c'est intéressant. Moi, je suis très sollicité par les entreprises pour faire du conseil géopolitique. L'autre chose que je vois, c'est une inquiétude effectivement dans la population française, parce que on avait l'Ukraine et maintenant on a le Moyen-Orient depuis un an et demi, et ça pèse lourd. C'est pas bon pour le moral. Les Français savent aussi que ça peut avoir des répercussions sur le prix de l'énergie, par exemple. Ce prix du gaz, du pétrole. Donc je comprends que ça, à la fois que ça intéresse et que ça préoccupe les Français, mais je le répète, il faut pas tomber dans le catastrophisme. On n'est pas du tout à la veille d'une très grande guerre où cette guerre ne va heureusement pas nous toucher, nous, directement. Mais je peux comprendre que l'ambiance soit pas folichonne
en
ce moment.
Avec des débats politiques extrêmement tranchés alors que le conflit est en cours, on ne sait pas, Bruno Tertrais, où ça va. Hein. Là, pour l'instant, on ne peut pas dire ça va être très court, c'est les objectifs sont atteints.
Vous avez raison, parce que là, pour le coup, on a le sentiment qu'Israël a décidé de régler la question iranienne une bonne fois pour toutes. C'est mon interprétation de ce qui se passe aujourd'hui. Il faut comprendre que les Israéliens ont pris un énorme coup sur la tête, si j'ose dire, le 7 octobre 2023, et ont décidé qu'ils ne pouvaient plus vivre avec des menaces qu'ils considèrent comme existentielles dans la région. L'expression qu'ils utilisent là-bas, c'est maintenant, il faut couper la tête du serpent ou couper la tête de la pieuvre. C'est leur expression.
Avec des populations qui subissent, mais qui sont solidaires, même dans l'opposition de leur leader Benjamin Netanyahou.
Globalement, oui. Même les gens qui détestent Netanyahou, ils sont extrêmement nombreux en Israël, considèrent que là, régler le problème iranien, il faut faire bloc derrière le Premier ministre, même en se pinçant le nez. Ce qui est intéressant, c'est la réaction de la population iranienne à ce qui est en train de se passer. On dit souvent que les bombardements, ça contribue à faire masse derrière le régime, quel que soit le régime. C'est pas toujours vrai, mais ce qui est pas forcément vrai non plus, c'est que la population iranienne est prête à se révolter en masse contre le pouvoir. On voit pas aujourd'hui des millions de personnes en train de défiler dans les rues de Téhéran comme au Tabriz ou des grandes villes iraniennes.
Allez, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, votre essai, La question israélienne aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous, Bruno Tertrais, d'être venu nous informer sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, les médias avec Valérie Expert et Gilles Gansman. C'était La Vérité en Face. Merci à tous.
Sud Radio Saint-Jean-de-Luz.
103.9.
Sud Radio.
Si demain tu m'écouteras encore, si je redeviendrai une inconnue, si je partirai comme je suis venue, si fort, si vite, je cogite, je pose des questions à des questions, je me demande si on m'aime pour les bonnes raisons. Propose de chanter cette chanson, je sais pas, j'hésite, je pense à tout ça, je me dis oh là, ça ira, je pense à tous ceux qui m'aiment pour deux, qui me font des cœurs avec leurs doigts, je dors plus la nuit, ça me fait tourner. Plus la nuit.